La Fièvre des sucres est un podcast acéricole avec des voix libres, stimulantes et qui interpelle l'industrie pour amener l'acériculture au-delà de ses limites actuelles. Dans ce troisième épisode, nos trois acériculteurs passionnés, Michaël Gagné, David Bolduc et Marco Gilbert, discutent du recours aux travailleurs étrangers et de leur formation, du quotidien dans un centre de bouillage, de l'entaillage hâtif et des trois grandes phases qui composent une saison des sucres. Ils abordent également les enjeux du sirop filant, de l'enfouissement des lignes air, eau, des volets récréotouristiques associés à l'acériculture, des normes de performance et de l'ouverture à la nouveauté, ainsi que de la relève et d'une foule d'autres sujets passionnants. Cet épisode de La Fièvre des sucres, disponible sur YouTube et Spotify, vous est présenté par la microbrasserie La Souche, avec la participation de Service Acéricole Giroux pour toutes vos solutions en soudure, TIG, fibre optique, automatisation et télécom, ainsi que par la chaîne YouTube Le goût du territoire, une mine d'infos et de passion pour les amoureux de la foresterie, d'acériculture et plus encore. Bonne écoute de l'épisode 3 de la première saison du podcast La fièvre des sucres, intitulé « Démarrer et croître en acériculture ».
Ouvre-nous une terre de couronne, puis installe la tubule au bord de sa cabane. Et il y a des 500 000 qui envoient à gauche et à droite, puis des fois, le monde ne sont pas trop équipés pour affronter ce que ça exige comme investissement en temps, puis en connaissance.
Que ça fait 16 heures en ligne que tu bouilles. Hein,
ouais, ouais.
Ouais, c'est ça. Ça n'arrête pas de couler. Là.
Tu fais, ouais,
puis t'as pas le gros réserve. Ouais. T'as pas trop le. Ouais, ouais, c'est ça. Ça. J'avais un de mes cousins qui en avait acheté une pour s'amuser, 500-600 dans la taille. Puis lui, il dit je tripais parce que je voyais ça comme être un vignoble. Il dit en France, le monde a des vignobles. Au Québec, le monde.
Ils ont
des cabanes à sucre. Ouais. Il l'a eu un printemps. Il y avait 500 dans la taille. Il allait justement, puis il a pogné la grosse année. Puis il dit, moi, j'ai une job à temps plein. Il dit, ça fait 20 heures que je bouille ici, pas de séparateur. Là. Il dit, je déchante un peu. Là. C'est ouais. Moins bucolique que c'était. Wow. C'est le fun, mais c'est moins bucolique que c'était.
C'est ça, le vignoble, au diable. Hein. Ouais. Mais c'est ça qu'il y a beaucoup qui se lancent là-dedans en pensant que c'est le Klondike. Puis c'est... Mais au final, c'est beaucoup de temps, hein, c'est beaucoup d'énergie.
Hein. Ah, mais t'as des enjeux, en tout cas, à ma grosseur, t'as des enjeux de main-d'œuvre. C'est ça qui est le plus complexe. Pour moi, en tout cas. Là, de moins en moins, parce que ça fait 4 ans qu'on utilise la main-d'œuvre étrangère. Là, les gars sont formés, puis c'est les mêmes qui reviennent année après année. Puis, mais je veux dire, la première année que j'ai eu ces gars-là, j'étais enchanté d'avoir des travailleurs, mais les former, ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose, parce que moi, mon espagnol, il est aussi bon que mon chinois, c'est-à-dire rien. Ça fait que ça a pris des traducteurs en forêt. Mais la première chose que j'ai faite, c'est faire venir un traducteur. On a fait tous les jobs. Les gars sont arrivés l'automne, mais on a même entaillé à l'automne 2-3 arabes juste pour qu'ils comprennent ce qu'on va faire. On a installé de la tubulure une couple de minutes. Après ça, on a mis de l'alcool dans les tubes à l'automne. On a redit des mains. Puis tout ça pour qu'ils comprennent un peu ce que je voulais leur faire faire. Et l'avantage que j'ai eu, c'est que ma conjointe, elle parle espagnol quand même bien. Hein, okay. Fait que le soir, au pire, à la maison, je m'organisais pour me faire comprendre. Mais là, à cette heure, ça va bien. Mais mon équipe est formée. Puis j'ai juste à aller mettre des rubans dans le bois. Puis ils vont installer la tubulure comme des équipes d'installation, par exemple. Puis l'entourage est sans
puis la beauté de la chose, toi, tu m'avais dit, cette année-là, j'ai aucune attente. Parce que j'ai des nouveaux, puis ils connaissent rien. Il me dit, j'ai aucune attente. Puis ça a été probablement c'est meilleur. Parce que. Remorse un bonhomme ou un gars que lui, il est sûr qu'il sait comment...
C'est quoi,
moi, là, je suis comment entailler.
Je viens du Québec, je sais c'est quoi entailler.
Ouais. Fait que là, t'arrives, tu vas aller travailler pour Mike. Là, Mike, moi, je veux que ça soit fait de telle manière. Parce que chacun, on a chacun nos critères. On a tous des critères à quoi on tient. Parce que pour nous autres, c'est important pour le rendement. Là, tu le montres à ce gars, pff, il montera pas. Dans sa tête, il dit, c'est correct. Là, il part puis il fait sa tête dans le bois. Mais ceux-là, ils ont écouté. Là. Fait que j'avais trouvé ça bon.
Les gars ne l'ont jamais fait.
À partir de zéro.
Parce que tu les montres, ils l'apprennent comme ça.
Ah, ouais. Ouais.
On leur avait donné les échelles. Les gars, ils n'ont pas dit, hey, je ne montrerai jamais là-dedans. Moi, j'ai demandé à un, ça te dérange, je monte une échelle. Ben, dis-moi, si je prends un verger et qu'il y a des pommes, on va monter d'une échelle. Il dit, faut que je monte ça. On va monter. C'était pas plus compliqué que ça. Puis tu sais, moi, j'ai rendu ça. Le plus simple possible pour garder un suivi le plus facile possible. Chez nous, chaque travailleur a une couleur à l'entoyage. Tu marques tes trous à l'entoyage. Ben moi, Abraham, il est jaune. Chaque gars a sa couleur. Fait que moi, quand je veux faire mon suivi pour voir si c'est bien fait, mais c'est beaucoup plus simple pour moi de le faire comme ça. Là, à cette heure, c'est même les travailleurs étrangers qui bouillent. Mais c'est sûr que j'ai quand même trois Québécois là, qui travaillent avec nous autres. Là. J'ai un gars qui est Charilo, puis les deux Québécois, là, Kevin puis Vincent, il agissent plus comme contremaître que d'autres choses sur le terrain. Puis moi, au final, ben je cours partout puis je règle des problèmes. En gros, c'est ça mon travail. J'ai de la misère à me trouver du temps à quelque chose de spécifique. Mais tu sais, quand il y a un vacuum qui brise là-bas, je vais le réparer. On attend tout le temps un morceau de quelque chose. On devient. C'est pas électromécanicien, mais pratiquement. Oh
ouais. Quand t'es chanceux, tu sors du rap, tu vois Mike passer, tu dis Chris, je peux aller voir. Je peux aller voir la cabane. Et il passe avec une citerne. Bon, je vais aller voir Mike. Prendre une petite bière rosée de sirop pour faire.
C'est rare. C'est ça. Mais c'est ça. Chaque cabane. Moi, je suis pas très mécanique, là. Ça fait que j'essaie de me débrouiller dans la plomberie, je me débrouille. Dans l'électricité, je suis pas si mal, mais. Tu sais, réparer le vacuum, moi, ça.
Moi non plus, souvent on change plus qu'on répare. Ouais. Là, ça presse, tu t'en mets un nouveau. Ouais. Puis,
au moins, ça. Les équipementiers. Le printemps, en tout cas, à date, moi, ils sont assez disponibles et ils n'ont pas le choix, là, parce que sinon, tu pars, tu te dis, je pense à un autre, mais on peut pas être spécialiste dans tout, puis quand il y a de quoi qui brise, mais ça. Moi, il y en a plusieurs qui disent, je sais pas toi si tu commences à entailler de bonne heure, moi, je commence à entailler tout de suite après les fêtes, habituellement, tu sais, fait que je suis, pour une 3000 entailles, là, je suis de bonne heure en maudit, mais moi, j'aime ça, pogner, j'appelle ça la pratique générale. Fait que je m'arrange pour être prêt. Fin février, début février dans ce coin-là. Puis là, quand t'as les premiers à couler, ben là, t'essayes tout. Fait que là, si il y a de quoi qui fuck ou qui lâche, ben.
C'est ça.
Tu perds pas grand-chose. Tu perds le début. T'es pas dans ton rush de saison que là, tu commences, là, wow, c'est le rush. Ben. Ouais.
Puis à cette date-là, l'eau se garde. Ouais, exactement. Si une semaine de garde. Elle va geler au pire. Mais exact. Ça, c'est pas grave.
Ouais. Fait que moi, je pense que c'est un bon compromis. Même pour les petites, avant, c'était. T'avais l'enjeu d'essayer d'entailler à date que ça commence à couler. Ouais. Mais maintenant, on est étanche. Si ta tublure est désinfectée, puis que t'as pas de bactéries, puis que tout est beau, ben, comment t'entends de bonheur, puis tu gères ton vacuum, surtout quand il y a des
coulées. Ben moi, cette année, ça fait une couple d'années que je commence à entailler plus de bonheur. T'sais, avant ça, quand j'entaillais, mon père, c'était la semaine de relâche. C'était entaillé, puis là, souvent tu passais, puis là, je me mettais à la bouche là, puis ramassais le verre, puis sortais du trou direct, là, avant de mettre la pelule dans le trou.
Mais nous autres, on a quand même la même réalité. On travaille les deux temps plein, fait quand on fait ça par les fins de semaine.
C'est ça.
Par les fins de semaine. Tu sais, Mike, lui, on commence quasiment le même temps, mais là, malgré cette année, tu as commencé en décembre. Mais. Lui, il commence parce qu'il y en a beaucoup.
Il vit 5 jours.
Mais, 6 jours, mais nous autres, on fait ça par les fins de semaine. Ouais.
Moi, début février, à cette heure, je commence. Cette année, c'est ça que j'ai fait. Mais là, cette année, j'ai tout changé mes chalumeaux. Ça a été une méchante job. Ta bandouche, d'habitude, ça prend 7 jours, à peu près 8 jours. Faire mes 2300 à peu près. Là. C'est à peu près 250-300 par jour, pas mal max.
Ouais, moi aussi, je suis. Tu sais, moi, le monde qui dit. J'ai déjà monté plus que ça, mais. C'est bien fait, là. Moi, quand j'en ai fait 300 d'une journée, j'ai eu une
crise. Là, cette année, en plus, l'année allait bien. Ça fait que c'était pas pire, là.
Ouais, moi, quand j'ai commencé à entoyer, je n'entoyais 1000 par jour. C'était ça qu'ils nous demandaient, c'est ça qu'on disait. Mais je les entoyais pas, je passais. Je faisais des trous. Exact. La drille à gaz, elle arrivait, c'était pas vrai. Puis c'est là qu'elle allait, puis il y avait un trou. Il y avait 1000. Et aujourd'hui, moi, c'est 200-250. Ça, on ne dépasse jamais ça, puis c'est de même.
Mais ils sont bien faits.
Mais moi, c'est ça qui m'entraîne d'avoir beaucoup de monde. Tu sais, le monde nous dit, ouais, mais t'as 60 000 arabes, mais t'as beaucoup d'employés. Oui, mais crif, on prend le temps de le faire comme il faut, puis au final, j'ai plus de gars dans les fuites que la moyenne. On vient de finir de faire des fuites, là. Je suis encore en production. Là, j'ai fini de faire des fuites, puis le lendemain, je commençais à cabaner mes secteurs les plus chauds. Fait que les gars n'ont jamais arrêté de travailler, mais la dernière journée de fuite, ils ont encore trouvé des fuites.
Ah ouais.
Puis ces secteurs-là sont encore en production aujourd'hui. Tu sais, c'est pas la grosse production, mais ce qui s'ajoute, c'est quand même bon.
Ah ouais.
Mais c'est.
C'est un des gros facteurs du rendement. Ton entoyage, puis il embarque dans le nettoyage. Ton nettoyage, là,
tu commences ta saison de l'année
prochaine. La saison, exactement. Ton désentoyage de là, Il y a un impact sur ta production de l'année prochaine si tu le fais pas comme si tu le fais comme du monde ou pas comme du monde.
Nous autres, la séquence, à chaque matin, là, c'est pas de même pendant le début de la saison. Moi, il y a trois saisons dans une saison. Il y a la saison, la pratique. Il y a la vraie saison, que là, on vient de... Tout le monde l'a fini, puis ceux qui ont arrêté, Puis j'appelle ça la saison de la misère ou ceux qui ont des paiements. Ça, il y en a moins qui à fond à la fin. Fait que là, on est dans la saison
de la misère. Les trop craqués qui...
Ouais, c'est ça, qui veulent se rendre au bout. La saison de la misère, là, il faut laver la station de pompage à tous les jours. Il n'y a pas question d'en passer. Mais moi, la séquence, à chaque matin, mes équipes partent, puis ils vont laver toutes les stations de pompage. Tous mes tuyaux foulaient dans la terre. Fait qu'il faut pas. On passe une éponge à chaque jour pour être sûr qu'on s'accumule pas de bactéries parce qu'on peut pas se permettre de laisser traîner ça. Moi, ce qui arrêtait ma saison, voilà une couple d'années, c'était de virer filant. C'était chaud, j'ai des versants sud à certaines places. Ça rentrait filant de la forêt. À parler à mon conseiller à Serica, moi, c'est Joël Boutin. Joël, il dit ton problème, c'est que c'est trop chaud. Je dis ok, fine, c'est trop chaud. Qu'est-ce que je fais? Là, je mets-tu des beaux tanks réfrigérés? Non, ça me donne rien d'avoir des beaux tanks, c'est trop loin. Mon...
Le mal est déjà fait.
J'en suis venu à me dire la meilleure façon de refroidir, c'est de rentrer dans la terre le plus tôt possible. Fait que moi, tous mes héros qu'on refait, ils sont souterrains. Puis j'essaye de les grossir, de les surdimensionner parce que avec le temps, on faisait calculer la grosseur des mains. On est passé d'un pouce et quart à un pouce et demi à deux pouces. Puis là, c'était tout le temps, ah, mais si vous produisez tant, faites-en donc, mettez-en un peu plus gros. Fait qu'on a surdimensionné les aéros qu'on met dans la terre, puis ça compense aussi si jamais il y a un vallon, quoi, qu'il n'est pas supposé en avoir, c'est compacté, puis on met une planche. Fait qu'il y a autour de chaque tuyau qu'on fait. Mais on est rendu à des kilomètres de tuyaux souterrains. J'ai acheté une pelle mécanique juste pour faire ça. Puis ça me permet d'étirer ma saison, justement, de ne pas virer filet. Mais le conseiller, justement, Joël, il déteste les tuyaux souterrains parce qu'il dit que ça va t'amener d'autres problèmes, c'est-à-dire des problèmes de sirop-surie, parce que ça gèle jamais. Ça gèle jamais, fait que ça développe d'autres goûts. Mais il dit tu peux le contrer en passant des éponges. Fait que moi, il y a une... c'est sûr. Il y a une séquence quand la saison de misère commence où il y a des éponges qui se passent à chaque jour pour pouvoir réussir à maintenir une qualité de sirop et éviter ça. Mais ça prend du monde pour faire ça. Puis, en ayant plusieurs sites différents, mais c'est sûr. L'enjeu est ça pour aujourd'hui. Plus tard, quand je serai rendu plus proche de la retraite, on vendra plusieurs sites, puis je vais en garder juste un. Je vais me garder un 3000 en temps, je vais le faire tout seul, ben, ça va être ça.
Comme l'ancien propriétaire que tu as acheté en premier, lui, il a fait pareil, il a vendu tout, puis il est parti, puis il s'est acheté un petit 15 cents, puis s'amuser, probablement que...
C'est
le but aussi.
C'est à peu près ça. Bon, moi, je suis déjà où... Moi, en arrière de ma maison, j'ai 2700 hectares, il va en avoir 3000. La cabane est déjà construite. Et il reste juste à mettre un évaporateur dedans, puis ça va être ça. Mais la retraite n'est pas prête, puis j'ai hâte de voir si ma relève va vouloir prendre le reste. Là, puis moi, je ferai comme ton père. Là. Ton père, il n'allait plus dans ta cabane, il en avait une. Je m'occuperai de la mienne, puis si les enfants veulent avoir le restant. Tant mieux, mais pour l'instant, sont petites. J'ai trois jeunes filles. Fait que...
Ça, c'est pas mal ton meilleur site?
C'est un des bons. Mon meilleur, c'est Wally, mais Wally, à force d'acheter des voisins, va être trop gros pour ma retraite. On va être rendu à 17-18 000. Là. Si je veux le faire tout ça, je pense que 3000, ben, vous avez à peu près ces grosses heures-là. C'est assez.
Ouais, mais là, la différence, nous autres, c'est qu'on travaille au travail.
Ouais, c'est ça.
À la retraite,
ça va. Mais tu sais, toi, qu'est-ce que t'as fait, là, 2 ans? Tu as fait un
beau projet. Ouais, ben moi, tu sais, je peux pas agrandir. C'est
tout le temps privé autour. T'as fait un à côté.
Ouais, ben c'est ça. Ben moi, le but, c'était ça. C'était d'aller voir comment je pourrais générer d'autres revenus que des revenus à Séricole. Ça fait que l'idée du chalet locatif est arrivée un peu dans cette logique-là. Je vais rebâtir la cabane, ça c'était sûr, parce que c'est une ancienne cabane qui servait à l'époque des chevaux, qu'on a déménagé en pan de mur, qu'on a remonté sur une slab de ciment de 4 pouces faite à gauche. C'est des souches renversées qu'un voyage de sable par-dessus. Là. Le plancher de ciment était tout croche. Et il y avait un égout dans le milieu de la cabane, mais l'eau s'en allait d'un crack au lieu de s'en aller dans l'égout. Il n'y a plus rien qui roulait.
Je connais ça,
moi. Tu connais ça aussi? T'as le même plancher.
Ben moi, j'ai des belles craques. Puis là, ben, l'eau s'en va là. Quand elle passe pas proche de la craque, ben, elle se rend dans le tuyau d'égout. Mais là, actuellement, elle va dans le craque. Ben,
les framboisiers commençaient à sortir de temps en temps parce que le soleil rentrait par la vitre. Là,
Pas tant que ça.
Là, ben, la presse à sirop, pas capable de rouler ça. Les barils, ça roulait tout court. Fait que là, j'ai décidé de mettre ça à terre. Mais là, avec ma blonde, nous autres, on reste à Québec, puis les Ravières, Tays-Broughton, ça fait que c'est 1 heure de route. Ça fait que, tu sais, là, ma mère est proche encore, mais un jour, ben, j'aurais plus une place pour dormir quand je me couche trop tard le soir. Fait que
ça arrive de temps en temps en tant qu'agriculteur. Ouais, c'est
ça. Fait qu'il faudrait que ça aille un pied à terre. Fait que on a dit on va se faire un chalet, mais là, tu regardais les prix, mais tant qu'à faire un chalet, ben on a décidé de faire un chalet qui était locatif. Fait que là, les gens peuvent venir à cabane, ben au chalet, puis ils peuvent traverser dans la cabane quand je fais bouillir, puis venir voir comment ça se passe. Puis il y a beaucoup de Français qui viennent, ils prennent, ils vont visiter les rabières, je vous explique comment ça marche. Puis les gens de Montréal là, qui viennent dans le temps des sucres, eux autres, là, ils ont réservé un parc à chaque année pendant plusieurs années, là, ils viennent. Ouais, fait que des gens qui se promènent comme ça, qui viennent profiter de l'érablière, puis qui viennent visiter, puis... Fait que moi, c'était une autre façon d'aller chercher les revenus en lien avec l'érablière, c'était d'avoir le chalet locatif pour un temps, puis à un moment donné, ben j'arrêterai de louer ça, puis ça sera mon pied à terre quand je serai à la retraite, comme tu disais, ben je vais descendre à mi-février, puis je vais passer le temps là.
Fait que tu t'es mis à jour un peu plus au niveau de la norme, mettons, alimentaire, si on veut.
Ben là, la cabane, je sais pas ça va être quoi énorme un jour alimentaire, là, mais en tout cas, disons que s'il arrive quelque chose qui nous frappe, je vais être...
Ben,
sur le bord d'avoir quelque chose qui va être correct, parce que si les normes deviennent trop sévères à un moment donné, c'est des petites cabanes comme ça qui vont disparaître. Là.
Ben exact. Moi, je suis dans le même... Puis ça, c'est un peu déplorable qu'on n'ait pas d'orientation claire sur... Tu sais, moi, je bâtis là, puis j'ai écrit au MAPAC, j'ai écrit... je peux t'avoir... Là, il s'en vient un guide. Il n'y a rien de clair.
Le guide va être présenté à la prochaine AGO, supposément, là, des producteurs.
Des producteurs, OK.
Fait que, ça a été développé par la Fédération. Mais ce guide-là, de bonne pratique, c'est le même qui s'appelle, il n'a pas été entériné par aucun acheteur.
Hein?
On voit dans les journaux que les acheteurs ont goût d'exiger des exigences plus serrées au niveau de la qualité des installations. Sauf qu'en même temps, ce qu'on vend, c'est une canne de sirop, on vend le terroir, on vend encore le cheval puis la tonne.
Oui.
Si on sort de ces cabanes-là, puis je parle de ça, puis je trouve que c'est un non-sens. Oui, moi, j'ai une cabane qu'on peut appeler industrielle, sauf qu'au final, le produit qu'on vend, c'est aussi l'expérience que tu vends à ta cabane.
Oui,
exact. Puis c'est ça que le monde cherche. Oui. Tu sais, est-ce qu'on veut vraiment juste des grosses érablières, des usines? Non. Est-ce que l'usine a sa place? Oui. Parce qu'à un moment donné, il faut en faire du volume, mais le marché du sirop, il est énorme. Mais en même temps, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Puis si c'est énorme, s'ils deviennent trop restreintes, ça n'aura pas de sens.
Non.
Tu sais, à un moment donné, il y a la norme californienne, la loi sur la norme californienne, c'était correct. Elle a été imposée, moi je n'ai pas aimé ça. Qu'elle soit imposée comme ça, elle aurait dû être négociée. Et on aurait dû être compensé comme producteur pour se mettre à jour dans nos équipements, mais sortir le galvanisé, c'était ouais, correct.
C'était une très
les bonne années 80, ils ont sorti les chaudières en galvanisé des cabanes à sucre. Malheureusement, on en voit encore. Mais je veux dire, il n'aurait pas dû en avoir après ce temps-là. C'est correct qu'on ait mis nos équipements conformes. Ce que j'ai déploré dans le thème, c'est qu'ils nous l'ont imposé. Ça a fait, moi, chez nous, c'est pas compliqué. On a investi 300 000 piastres juste pour se mettre conforme. Puis on a eu quoi de plus pour ça?
Rien
avant tout. Fait qu'à un moment donné, moi, ça me fait plaisir d'investir. Si j'ai investi une pièce et qu'il en revient deux, c'est correct. Si j'en mets une et qu'il revient rien, ça vaut pas la peine beaucoup.
Puis pour les plus petits producteurs, c'est qu'un jour ou l'autre, tu sais, avant ça, mettons, là, le producteur, il y avait une dizaine de vaches chez eux, puis il y avait le bidon de lait, il ramassait le lait, puis il allait au bout du rang, puis il y avait une beurrerie puis une fromagerie. Mais là, à un moment donné, tranquillement, ils ont augmenté énorme, puis les standards, puis toutes ces petites beurreries-là, fromageries-là, ça a tout fermé. Là, le producteur, à ce temps, ce qu'il fait, ben, c'est qu'il y a un gros bol de tank réfrigéré. Puis là, il y a le système qui arrive, ramasse le lait. Il va porter ça à Québec ou il va porter ça à Montréal. Puis c'est là que c'est transformé. Puis ça se retrouve ses tablettes après. Mais tu sais, à un moment donné, si les normes deviennent trop strictes dans le sirop d'érable, les petits producteurs vont pas suivre. Tu sais, moi, j'ai 2300 entailles pour m'équiper puis installer, mettons, un setup là, pour être capable d'être alimentaire. Et tu sais, c'est un investissement qui va peut-être être trop important pour être supporté par une érablière de 2300.
Là, c'est la cabane de 2300 ou la cabane de 10 000, c'est le même
coût. C'est, même
c'est coup, le même coût de construction, puis la grosseur de l'évaporateur qui va varier.
Il y a peut-être une membrane ou deux de plus sur le séparateur, puis un réservoir un peu plus grand, mais au final, c'est les mêmes
patentes. C'est la même affaire.
Fait que c'est ça qui arrive à un moment donné, puis là, ben tu te retrouves avec ces normes-là sur le dos, puis tu te dis, il va me rester quoi au bout de la ligne? Là? Fait que... Tu sais, les plus petits producteurs, ça devient de plus en plus difficile à démarrer. C'est ça qu'on disait tantôt. Là, partir une érablière aujourd'hui de 2-3 000 en taille, là, supporter l'investissement de ça, et, écoute, ça prend quelqu'un qui a les poches profondes pour...
Juste le prix de l'érablière comme tel.
Ouais.
Après ça, les équipements, là, regarde, faut...
Tu sais, chauffer au bois, là, mettons, on parlait des normes qu'on ne connaît pas trop encore. Là. Là, on, les images qu'on voit, là, c'est le filet sur la tête puis le sarreau blanc. Mais moi, je chauffe au bois. Là, et comment je fais? Je chauffe au bois avec mon sarreau blanc puis il va faire avoir des corps dessus. Puis,
il va fondre dessus.
Pour ramasser. Non, mais tu sais... Ouais, puis en même temps, c'est un produit qui est bouilli. Là. Ouais, c'est pas comme quelqu'un qui dépèse une longe de passe sur une table de stainless.
Exact. Faut qu'il y ait une nuance. Faut que la différence soit là. Nous, le produit qui est bouilli, il n'est pas pareil comme le lait. Tu sais, le lait, tu n'as pas le choix d'avoir des normes hyper sévères ou la viande, le ci, le ça. D'autres, il est bouilli. Là. Fait que il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus rien.
Mais tu sais, c'est sûr que tu peux aller dans des cabanes à sucre où, il y a de l'exagération par rapport à la salubrité. Là.
Exact. Ça prend un bon encadrement. Mais justement, la norme californienne l'a amené beaucoup.
Ça a fait un gros ménage, c'est sûr.
C'est ça. Mais il reste que ça prend un minimum. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on aurait au moins un peu plus d'orientation claire. Là, tu sais, toi, t'as bâti il y a 2 ans. Moi, je bâtis cet été. Puis j'ai pris à peine de demander, puis j'ai eu aucune réponse. Ouais. Fait que là, tu te dis, ce que je vais faire... Fait que là, on y va comme on pense. En espérant que l'autre bout, j'aille pas obligé de réinvestir par après.
Tu sais, comme chez nous, moi, la tuyauterie, je l'ai toute faite en stainless. Tant qu'à installer industriel, on l'a fait un peu plus industriel. Ouais. Mais avant de le faire en stainless, je l'ai fait en plastique. Faire mes erreurs. Parce que changer du plastique, c'est facile. On coupe, on recolle.
Ouais, exact.
Changer du stainless, ben moi, je chaude pas. Ouais. Ça prend quelqu'un qui revient le faire. Mais par contre, il y a une chose, je me suis rendu compte. J'aime le stainless à l'intérieur pour la porosité. C'est plus facile à nettoyer. Ouais. On fait moins de sirop collant. Avant de passer à du sirop filant, il vient dur à presser. Puis on lit souvent, moi, sur les médias sociaux. Là, pourquoi mon sirop, il est dur à passer? Il est dur à presser, ça marche pas. Ben, un, mets plus de poudre. Quand tu penses que tu en as mis trop, double ça.
Mais
ça, c'est la recette classique. Mais après ça, as-tu essayé de nettoyer ton tuyau entre ton bassin de concentré et ton évaporateur? Puis la réponse, c'est tout le temps non. Puis ça, je ne le mets jamais. Moi, j'écris tout le temps en privé à personne.
Ouais.
Essaye ça, passe un éponge au bout d'une broche. Hein. Tire ça, puis... Check ce qui sort de là.
Ah, c'est...
Oui, tu vas le bouillir après, mais nettoie ça.
Mais oui,
tu vas voir, étonnamment, ton sirop devient plus facile après ça.
Ben, parce que...
Ouais. Tu accumules, là, un genre de biofilm qui se lave pas juste à passer de l'eau. Il faut que ce soit mécanique. Quand tu arrives avec du stainless, ben là, tu vas passer juste un eau chaude. Ça lève plus facilement. Ben, en fin de saison, nous autres, on fait un oxysan là, là-dedans, puis là, ça lève vraiment...
Mais moi, le bout, là... Tu sais, j'irais pas si tu fous le stainless comme toi parce que je peux pas me le permettre.
Non, mais j'aimerais ça. Tu parlais d'un investissement. Ouais, tu sais, pour toi, t'as un 60, 80 000, 100 000, bon, peu importe, t'as le nombre d'entailles pour supporter peut-être le même bout de tuyau que moi qui m'a 2003 ans.
Je suis d'accord, c'est vrai.
Exact.
C'est,
on peut pas le faire. Mais il y a une affaire, c'est sûr, que je vais faire. Je veux que ça soit stainless. Partir de mon concentré,
entre
je veux
le bassin,
entre le concentré et la bouilleuse, ça va être stainless. Ouais. Ça va être le minimum parce que je suis conscient de ça, mais. J'aimerais ça, mettre du stainless partout, mais... Puis j'ai bien beau avoir des beaux rendements, là, mais ça me donne pas... Ça donne un peu plus de budget à l'autre bout, mais ça donne pas 15-20 000 en table.
Non.
Mais tu sais, du stainless, moi, j'ai quand même été niveau économique. On a pris du stainless usagé.
Exact.
C'est du démantelage d'usines laitières qui ont été faites. On l'a récupéré, on l'a lavé, puis ça fonctionne. C'est sûr, c'est le fun de travailler avec du neuf. Les soudeurs aiment mieux souder du neuf, mais... Ça saute quand même, puis tu sais, t'as vu chez nous, c'est on l'a fait au plus simple, mais tout est lavable, tout est démanchable.
Il est fonctionnel,
c'est ça. On peut passer partout la même éponge si on se décide, là. C'est la beauté de la patente. Ou le plastique, j'ai aucun problème avec ça, en autant que ce soit alimentaire. T'sais, c'est important mais c'est un bout-là, parce que c'est...
C'est un produit alimentaire qu'on fait, ça c'est important.
Ouais, on fait ça. Ouais. Mais c'est pour ça que tu expliquais tantôt, dans certaines cabanes encore aujourd'hui, il y a des choses quand même. Mais entre établir des normes qui vont devenir trop strictes, il faut laisser une marge de manœuvre aussi là, par rapport aux produits qu'on fait. Là.
Mais j'aime bien sa comparaison de tantôt. Tu sais, c'est à Cannes, c'est encore...
Ce qu'on vend, c'est le cheval avec sa tonne en bois.
Exact, on vend encore ça.
La tonne en bois, à la fin de l'année, n'était pas facile à laver. C'est assez pour eux. Moi, je me souviens, moi, quand j'étais ticu, à l'érablière de mon grand-père, je nuisais plus que j'aidais, là, mais j'allais essayer de remonter les chaudières et de verser ça dans la tonne. Puis, veux pas, c'était la même tonne depuis je sais pas combien d'années. Là. Nécessairement, ça avait sa vie.
Il va avoir de la vie épouvantable.
Puis oui, elle avait, mais.
Là, c'était une grosse tonne en galvanisé.
Ouais, galvanisé, c'est ça qu'il y avait.
Mais moi, je ne l'ai pas mis dedans, là, je me rappelle pas, mais elle traînait à quelque part d'un coin.
Moi, j'ai commencé, ça vient de là, la passion de l'érablière. Il m'assisait en arrière, puis il fait semblant de chauffer le cheval. en avant. Tu sais, en arrière, il y a quelqu'un qui s'en occupait, mais c'était ça. Puis je me souviens de l'année où on est passé à Tubuleux. Ben, pas moi, mais mon grand-père et mon oncle. J'ai trouvé ça triste. On n'avait plus le cheval, on n'avait plus besoin de ça. Fait que là, il y en a entouré une coupe autour de la cabane. Mais tu sais, le folklore de ça, il est important. Puis c'est important qu'il y ait encore ce type de cabane-là. Mais ce type de cabane-là ne sera jamais capable de subvenir aux 150 000
litres. Non, ça en prend qu'ils en produisent.
Puis les frais pour produire ce sirop-là versus dans l'industriel, si on veut, de la cabane plus industrielle, sont pas les mêmes.
Non.
Fait que pour réussir à produire un sirop à un prix raisonnable pour la masse, ça prend le volume. Mm. Un sirop de niche qui se fait dans une cabane artisanale, il y a toutes les deux...
Il y a un monde entre les deux.
C'est en plein ça. Parce que chaque producteur que j'ai rencontré, moi, pense faire le meilleur sirop.
C'est ça.
J'étais pour dire surtout s'il vient de la Beauce, mais je te vise pas, Marco.
Mais au final, chaque producteur va commencer à faire du goût de bois, puis s'il t'offre assez, il va finir dans le bourgeon. Moi, tout le moins dans la sève. Ça dépend, il y a des régions qui ne se rendent pas au bourgeon. Entre les deux, on le sait qu'il est là le target du bon sirop. Là. Fait que tu sais... c'est sûr que l'équipement va changer de goût. Moi, quand j'ai passé à l'électrique, le sirop il est devenu plus beau qu'il était quand je bouillais à l'huile. Le goût il est semblable dans l'ensemble de l'œuvre, ça se ressemble, mais le il est beaucoup plus beau. Il est beaucoup plus beau, le sirop. Puis c'est dommage qu'on associe des fois des beaux sirops à la qualité ou l'inverse. Un sirop ambré, c'est ça que je veux. Et si tu y goûtes les yeux fermés, au meilleur sirop que je produis dans l'année, je pense que tu vas avoir de la misère à trouver la différence entre ça puis un sirop ambré. Puis pourtant, ça va être un 2A, un extra clair. Mais il y a une partie de la saison où le goût d'érable est plus puissant.
Tant qu'on va être payé à couleur, il y aura. Tu sais, fait que le sirop. Tu sais, comme tu dis, un bon sirop, là, ça veut pas dire qu'il va être... Il y en a qui disent, le meilleur goût de sirop, il est foncé. D'autres, moi, il est pâle, mais il peut être pâle puis foncé, puis il va avoir à peu près le même goût. Mais on est payé à couleur. Fait que là, le but, c'est
dans le même temps, le monde, il aime pas toute la même sorte de sirop.
Tu sais, ton sirop, ton préféré, à un moment donné, t'as un temps dans l'année où tu le trouves.
Ouais.
Moi, c'est le début de la sève. Quand il y a un petit point de sève,
c'est plus à la fin.
C'est là. Pourquoi? Parce que sirop de mon grand-père, c'est ça qu'il goûtait. c'est juste ça. Pourquoi il canait là? Probablement qu'il avait le temps, là.
Il jugeait que c'était là, mais oui, ça se peut. Des fois, c'est rien qu'une question de temps.
Question de temps. Tu produis des barils, t'as du monde pour t'aider à la fin de semaine. Ça cadait.
Chez nous, c'est pareil. Chez nous, moi, je cannerais pas de quoi que j'aime pas, mais en même temps, il faut que j'aille de l'aide. Fait que là, je suis là, go, il est bon, on canne là. Puis là, des fois, là, t'as canné, la fois d'après, oh Christ, il est bon.
Il est meilleur.
Là, t'en recannes encore, mais là. Hey, finalement, mais c'est ça, ça va vite, hein, tu sais, les saisons, puis
d'une journée à l'autre, ça va évoluer.
Ça varie.
La couleur, là, comme le monde pense que c'est. Moi, chez nous, si on fait à peu près 85% d'extra,
de doré
à cette heure, puis c'est ça, puis le reste, c'est du ambré, puis on finit la fin de saison, on ne veut pas y foncer. Mais... On a fait quelques erreurs au début. On produit, nous autres, on fait pas de barils, on fait des 1000 litres. C'est que c'est 250 gallons.
Une grosse taupe.
Sauf que je peux faire du foncé sans changer ma méthode de cuisson. J'ai juste à coller 4 tautes ensemble. S'ils refroidissent bien tranquillement, il va venir plus foncé.
Fait qu'il va avoir le même goût.
Il va avoir exactement le même goût, mais il va juste être plus foncé parce que sa période de refroidissement était plus longue.
Ah, ouais.
Fait qu'au final, moi, quand j'entends « Ah, mais j'aime mieux le sirop foncé, même.
Ben, » Il va t'en faire du foncé, mais il va
t'en faire du foncé. Il m'a collé 6 tautes chaudes ensemble, puis je vais prendre elle du milieu, puis il va être foncé. Ça m'amène... On faut quand même régler cette bout-là.
Parce que toi, c'est une perte monétaire. S'il fonce, puis il change de catégorie,
idéalement, il faudrait que je le refroidisse avant de le mettre en taupe. Ça n'a aucun sens, parce que la conservation ne sera pas bonne.
Ouais. Non,
mais si on parle juste niveau économique, ce serait ça. Mais là, on prend juste le temps d'essayer de les séparer un peu plus, puis il reste quand même la même couleur. Mais de l'échantillon... je prends mon échantillon, puis je vais prendre l'échantillon classé, il y a à peu près 7 de lumière de différence.
Ah,
entre une
taupe. Et c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. C'est
pas grave. Surtout quand on arrive à la marge. Là.
C'est ça.
Oui.
C'est ça.
Tu sais, le 7, c'est sûr, faire passer entre le doré et l'ambré, c'est vite.
Moi, de mon côté, ça sauve tellement de main-d'œuvre de ne pas produire de barils que je suis prêt à accepter que ça fonce.
Ouais.
Puis c'est parce que Ça n'a pas de sens. Ben, notre plus gros journée cette année, on a reproduit 89 barils, si on demande. Donc, 89 barils, on parle de gars sur le lift.
Qui arrête pas. Plein,
il arrête pas. Il lave un baril, puis il remplit, puis fait que là, c'est un homme de plus, voire deux dans la cabane. Puis quand on est en taupe comme ça, ben, nous autres, on remplit à gravité. Fait que c'est 5 minutes remplir une taupe. On le met dans un sirotier de calibration. Quand c'est prêt, on rouvre la valve. On a notre 1000 litres, ça prend 5 minutes. Le lift, une autre minute, puis c'est réglé. Ça fait que la taupe va devenir importante aussi, par exemple, pour les gros producteurs. C'est des enjeux de classement aussi à la Fédération.
Ouais.
On sauve 7 classements.
Ah ouais, c'est ça, parce que les autres,
c'est 7 barils. 7,5,
7? C'est 7 barils. Disons 7 barils pour faire un chiffron. Et si la majorité des gros producteurs, là, 20 000 en taupe, il y a plus switché là-dessus, on aurait beaucoup moins d'enjeux de classement puis de délai.
Ben, cette année, ça va de night up. C'est une grosse saison. Fait qu'on...
Ils disent déjà qu'ils ne seront pas prêts pour le 30 septembre, le classement.
Non, c'est impossible.
Parce que, mais tu vois, je voyais, moi je suis membre d'une coop, puis la coop, ils faisaient des tests en cabane, de prélèvement en cabane. Okay. Ils ont commencé, là, j'ai vu sur certains barils, il y avait une étiquette spéciale comme quoi le prélèvement avait été fait en cabane.
En cabane.
Ouais, ah. Pour sauver du temps.
C'est pas juste la coop, c'est un test d'ensemble des PEPAC. Nous, chez nous, nous l'avons offert. On avait fait la formation.
Okay.
Puis l'année passée, mais là, finalement, pour la taupe, ils préféraient l'avoir plus vite. Parce que de la taupe de plastique, nécessairement, elle se conserve un peu moins. Il faut que ça sorte. Puis là, on est une couple de producteurs à chercher de la taupe de stainless. On veut aller. On veut grossir les barils. Si chaque producteur passerait de 32 gallons aux 45, puis ceux qui ont des 45 passeraient au taux, les enjeux de classement deviendraient beaucoup plus simples. Tu sais, si tu coupes en deux le nombre de classements, sauf qu'il faut quand même avoir la conservation.
Garder la qualité du sirop.
Garder la qualité. Fait que on en a trouvé de la taupe de stainless. Il suffit de les importer pour voir, mais on espère que les équipementiers... Moi, j'aimerais pas mal mieux acheter du Québec, fait au Québec, que d'acheter en Chine. Mais si ça fait plusieurs équipementiers, moi, que j'approche, puis je leur en parle, puis je suis pas sûr que ça va pogner, puis, mais il y a un enjeu, puis les gros producteurs, puis les érablières, ils grossissent.
Mais de toute façon, les nouvelles érablières, là, tu regardes les quotas qui sont donnés d'une année à l'autre, là, c'est pas des binneries de 2-3 000 en taille qui sont données, comme qu'on... C'est toutes des érablières de 20-25 000. C'est pour ça. Réussir à être rentable, les érablières aujourd'hui, c'est ça. Là, c'est... Mm-hmm. La personne ne va pas commencer à demander un quota ben souvent là, pour 2-3 000 en taille parce qu'il n'est pas capable de réussir à rentrer son argent. Là,
à moins que ça soit un fonds de terre.
Ouais, c'est ça.
Il y a des gens qui veulent acheter ça, effectivement.
Mais tu sais, c'est pour ça que les érablières, c'est des 20-25 000. Mais quelqu'un qui commence à 20-25 000 là, en partant d'aller tout de suite vers des taupes, comme tu dis, en sachant d'avance que c'est le genre d'équipement qu'il a besoin, ben, il va prévoir sa construction en conséquence puis ce qu'il a besoin pour la manipuler.
Quand j'étais au cégep, j'étais en foresterie, mais je tripais sur la sériculture, ça a toujours été. Puis là, je lisais que le MAPAC disait que ça prenait 10 000 en taille pour vivre. Je te défie de vivre avec 10 000 en taille.
Ouais, ben c'est ça.
Mais c'était ça la réalité
dans le temps. C'était la réalité, mais c'est plus le cas. Ouais. Les prix ont suivi du sirop, mais tout a tellement augmenté. Un 10 000 en taille qui vit de ça, tant mieux pour lui. Il est assurément clair de dette, mais si moindrement que tu as une hypothèque sur une terre, on n'est plus là. 25-30, tu commences peut-être à générer un profit. Puis tu sais, comme vous autres.
Puis c'est à quoi, il faut que tu sortes un salaire. C'est pas rien. Tu sais, il faut que tu vives, puis il faut que tu aies un salaire décent, parce que c'est de l'ouvrage, là, tu sais.
Ouais, mais quand tu vas faire l'épicerie, tu dis pas, je suis producteur à Séricole, puis tu pars avec le panier. Non, faut que tu payes qu'on fasse l'épicerie.
Ouais, exact. Mais tu sais, on parle de... j'ai un ami, là, il a acheté une grosse terre, il y avait un 200 acres là-dessus, puis un gros coin d'érable au bout, puis on regardait ça. Puis lui, il est dans l'immobilier, puis il brasse bien des affaires. Puis là, quand il m'a demandé comment que je sortais de revenus bruts par année de ça, quand j'y ai dit le montant, brut, là, il est parti à rire. Tu sais, il est dans l'immobilier, là, il gère des...
C'est d'autres choses,
il
d'autres
clique chiffres. Des doigts, puis...
C'est dans six chiffres tout le temps.
Tout le temps. Pas fait que là, j'ai dit non. Puis là, j'ai expliqué, je dis, c'est pas ça. Tu sais, mettons, là, ton coin que t'as, là, qu'il y a peut-être un potentiel de 4-5 000 en taille, tu fais pas ça pour faire de l'argent.
Non.
Tu fais ça parce que tu tripes, puis t'as du fun, puis... Toi, c'est une passion, puis t'aimes ça. Fait que, si tu veux faire de l'argent, ça te prend beaucoup, beaucoup dans ta taille. Tu sais, c'est pas la même affaire. Puis, si t'as pas la passion, ça marchera pas. Parce que même si t'as beaucoup, beaucoup, la quantité d'ouvrage que ça donne, le temps que ça donne, le temps que ça te prend, il faut que t'aies la passion en arrière de ça.
Là. T'as pas le choix.
Parce que c'est un travail à temps plein. Regarde l'été, là moi, j'ai ciblé des affaires que je veux améliorer. Là. Les vals de bout de main, là, une couple là, que... c'est pas des fuites que tu entends, mais je me suis rendu compte que je prenais un jour là, sur le bout des mains à certaines places. Fait que là, il faut que j'améliore ça. Les Y, quand c'est annulé, ça a des places. Je me rends compte que ça prend un jour. Fait que là, je vais améliorer mes collets. Les tencelles qu'il faut que je change. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses que tu fais durant l'été. Là. Tu changes pas ça en plein milieu du sucre. Là. Fait que là, c'est des. Puis là, on parlait tantôt d'aménagement de forêt. Mais ça a même affaire. C'est des choses. De fait que, tu sais, tu travailles. Tu sais, il y en a qui voient ça comme bucolique. T'entends tes érables, puis tu l'eau rentre à la cabane, puis c'est réglé. À la fin d'avril, c'est fini.
Mais ça, ça peut être ça. Tu vas faire, vas faire une livre écart, tu vas dire. Ben, qui fait, fais 8 livres. Ouais, c'est
ça. Je vais vraiment pressé qu'ils en font trop. Mais. C'est un investissement. Faut que tu comptes ton temps, puis il faut que tu le fasses par passion. Là. C'est exact, ça qui est le fun. T'aimes ça. Puis quand tu y vas par passion, ben, c'est là que tu regardes pas le temps autour de toi. Puis, tu sais, moi, je me dis, le temps que je mets là, tu sais, Robert Bourassa, il a un barrage à son nom, puis tout ça. Mais tu sais, moi, le temps que je mets dans les rabières, c'est comme le leg que le jour que je vais mourir.
Moi, chacun de mes sites a le nom de l'ancien propriétaire. Oui. J'ai pas de site à mon nom.
Non, mais c'est vrai.
Moi, j'ai chez Wally, j'ai chez Martin, Raoul, c'est à la maison chez nous, mais elle s'appelle encore Raoul. C'est comme ça. Ils ont travaillé dessus, ils méritent au moins le nom.
Mais c'est ça. Mais moi, c'est comme ça. Mais ça,
c'est bon. Moi, j'aimais ça parce que, tu sais, je te connais quand même depuis un bon bout, puis je voyais ça. Toutes les fois, c'est toujours le nom de l'ancien. Puis c'est une belle
hommage. On en fusionne.
Il y en a qui ont un nom.
Mais c'est ça moi, que je trouve important. T'sais, au-delà de la production de sirop, moi, ce qui m'attache beaucoup à ce métier-là, ou enfin, cette passion-là que j'ai, là, c'est le leg. Parce qu'on parlait d'aménagement tantôt. Ben, moi, les décisions que je vais prendre, mettons, cet automne, quand je vais décider d'abattre des arbres, ben c'est pas moi qui vais avoir le résultat de ça. Là. Tu sais, le résultat en arrière de ma cabane à sucre, là, la partie que je vois qui est bien belle, puis c'est toute la belle érable, puis que là, je commence à ajouter des chutes là-dedans de plus en plus, là. Ben ça, c'est quand mon père a décidé de couper les épinettes de champ, mais moi, j'étais là, puis j'essayais d'en embarquer dans le trailer, puis j'avais de la misère, là. Tu sais, j'avais une douzaine d'années, puis une quinzaine d'années, ben c'est ça que j'ai contribué à faire, ben là, c'est ce bout-là que moi, là, je récolte ça, mais tu sais.
Tout ce que ton père a fait.
Ouais, c'est ça. Puis, mais là, moi, j'ai trois filles. Il y en a peut-être une, à un moment donné, va être intéressée par ça, mais elle va récolter les décisions que moi, j'ai pu prendre à un moment donné. Fait que, c'est tout ce leg-là, à un moment donné, que je vois qui est le fun dans l'aménagement puis dans la production là, de sirop.
Puis on le fait beaucoup parce qu'on espère. Moi, je n'ai jamais mis de pression à aucun de mes kids pour. Ouais. Mais j'aimerais ça qu'il y en ait un qui prenne la relève. Puis s'ils n'apprennent pas, ben. Je l'aurais fait en espérant. Je l'aurais fait pour un autre, là, mais tu sais, moi, mon but, c'est que ça soit le plus en santé possible, que ça soit le mieux fait possible. Je le fais pour moi, mais avec une vision future. Et s'il y en a un qui prend la relève, vous voyez bien qu'il y a le plus heureux au monde.
Ça. Soit comme moi, quand j'ai pris la relève de Martin, c'était une relève non apparentée.
Oui, c'est ça.
Il n'y avait pas d'enfant.
Ouais.
Je pense. Je le sais qu'il était content.
Oui, effectivement.
C'est une... Il dit au moins, il dit t'étais là longtemps, puis tu vas continuer. Tu sais, puis il dit, vas-tu pouvoir continuer à venir sur mes lots? Mais...
Hey.
Oui.
Ouais. Mais c'est ça, c'est comme son œuvre qui voit se poursuivre à travers toi. Là, c'est ça.
Quand j'ai acheté de mon père, c'était le début des hausses des prix des terres. C'était le début des 100$ l'entaille, puis on disait que ça n'avait pas d'allure. On aimerait ça que ça soit 100$ l'entaille. Mais c'était comme le début de ça. Puis là, mon père, il avait comme un choix à faire. T'sais, mon père il a quand même travaillé toute sa vie. Il a eu des bouts pas faciles, puis il a travaillé physiquement énormément. C'est une ferme, c'était pas des vaches à lait, là, c'était des vaches à bœuf. Fait que il a pas eu ça facile. Puis là, il aurait pu se revirer de bord. Puis là, ben, c'était le début de la haute. Fait qu'il aurait pu se revirer de bord et demander le gros prix. Nous autres, on s'est comme entendu un peu. Puis là, il a dit à mon père, tu sais, poilu, tout le monde va être poilu. Tu sais, poilu, il dit, souvent un étranger, là, il dit, demain matin, tu veux revenir, là.
C'est fini.
Il dit, tu mets pas les pieds ici, là. Il dit, le gars, si tu mets ton gars, ben, je pense pas que ton gars t'empêche de venir chez vous. Fait que, tu sais, j'ai trouvé, c'est quand même, tu sais, Martin, qui n'a aucune parenté avec, mais que c'était quand même une relève qui connaissait, puis tout, ben, c'est la même affaire, là. Martin, t'es encore en super bonne relation avec, là, tu sais, fait que, ça là, que la parenté soit là ou pas, quand t'as une relève, tu sais, c'est intéressant, ça te donne encore. Et ça te donne le goût d'y aller, ça te donne...
Moi, ça me donne un mentor. Tu sais, je l'appelle encore des fois.
Ah oui.
Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que t'en penses?
Ah oui.
Tu sais, puis je prends son opinion. Puis tu sais, pas nécessairement qu'on va faire ce qu'il dit, mais ça me donne, une autre vision extérieure. Des fois, quand t'es trop dans ton entreprise, tu focuses sur quelque chose. Puis là, Tu sais, des fois, je parlais d'un achat, hein, je devrais en acheter un autre là-bas. Mais dit, t'as-tu vraiment le goût d'en charrier un autre, un petit site, tu sais, pas coller ces autres? Tu sais, on.
Ça te donne
ouais, c'est ça, j'en suis rendu à ça. Moi. Oui, je veux encore grossir, mais je vais grossir autour.
Stratégique,
hein. Stratégique, un peu plus comme garocher, comme quand j'avais 30 ans. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai l'énergie baisse un peu, on dirait. ou c'est le fait d'ajouter des arabes.
Ouais, c'est ça. Mais c'est un gars aussi qui avait une belle ouverture aux autres. Tu sais, toi, t'es arrivé là avec tes idées, puis je pense qu'il était bien accueilli, tes idées.
Ah, au début, moi, j'ai commencé. Initialement, Martin avait 23 000 en taux, j'étais tout seul pour faire des fuites. Je lui ai demandé, j'ai dit, mettons qu'on prend un autre gars, là, ça te dérangera-tu? Hein, parce que chez Martin, le site, c'est
des montagnes. C'est pas comme ici, il y a des bonnes
pentes.
C'est pas comme ici, mais ça monte.
J'ai dit, pas que je veux pas faire l'ouvrage, mais il me semble qu'on en couvrirait plus. Puis il a dit oui, tu sais, il était ouvert à ça. Puis au final, à la fin, c'est mes gars de mon entreprise de foresterie qui venaient entoyer, désentoyer. Puis les rendements, on est passé des rendements corrects, là. On faisait 3 livres une bonne année, 4 livres, on fait.
Non, il avait dit, si un jour je fais. Avant que tu arrives, il avait dit, si un jour je fais 3 livres, je m'achète un Harley-Lou. Ça, c'était dans des débuts, puis il faisait pas 3 livres.
Bon, Martin, un Harley-Lou, ça en achète un
ou 2 livres. Non, mais là, il avait fait 2.98 ou 2.99, puis là, il avait acheté un autre, c'était une raison.
C'est pour dire que le même site aujourd'hui, quand il produit pas 6 livres, je suis dessus.
Ah ouais, c'est ça.
Puis lui a vu cette évolution-là, c'est ça qui est le fun. Il était ouvert. On allait dans un cours, parce que moi, après ma technique en foresterie, j'ai refait le DEP en acériculture à distance. Puis à distance, j'aimais pas ça. Fait que j'ai refait en partie des quelques cours au DEP pour aller me former encore plus. Puis dans le club, ben là, c'était le restant des installations tubuleuses puis tout ça. Puis je disais, on devrait essayer telle chose, des mini-montaux. Tu sais, c'était nouveau.
Ouais.
Les mains qui. Bon, je disais, on essaye ça. Ouais, tu essayes, là. Tant que ça passe pas trop de temps là-dessus, ouais, là, les gars, allez-y, puis faites-y. Puis là, on voyait, ouais, soudainement, ça allait mieux. Puis là, ben Martin, il avait été ouvert à rentrer des vacuums plus performants. Tu sais, il s'était fait conseiller ça. Puis il disait, hey, on essaye ça. On s'en était parlé. Ben oui, Martin, on essaye ça. Change les relâcheurs. Puis tu sais, à la fin, on était plus performants qu'on l'était au début. Puis là, il en reste quand même beaucoup à faire sur ce site-là. Mais on voit que nos efforts ont été récompensés. Puis c'est ça, un gars de main, il était ouvert aux nouveautés. Fait qu'on l'amenait, puis ça, c'était parfait. Là. Fait que c'est pour ça que c'est resté un mentor. Là. Quand j'ai besoin, tu sais, des fois, il me dit, carrément, il dit, ben, on l'aurait-tu fait ensemble? Tu sais, t'aurais-tu foncé là-dessus dans le temps? Oh oui.
Ah oui.
C'est quoi faire? C'est quoi faire?